Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupo.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat. Et c'est sur Africa Radio, vous nous faites part de vos commentaires. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, c'est facebook.com/legranddebat.
Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupo.
Dans le grand débat aujourd'hui au Cameroun, les prisonniers oubliés du régime Paul Biya au Cameroun. Depuis le début des années 90, plusieurs procédures judiciaires ont révélé l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Des condamnations ciblées, souvent en dépit du simple bon sens, ont brisé des vies et jeté un sévère discrédit sur l'institution judiciaire camerounaise. Plusieurs figures de la vie politique ont ainsi été incarcérés depuis l'instauration du multipartisme dans le pays. Combien de détentions arbitraires au Cameroun? Comment sont-ils encore aujourd'hui accroupis? Combien sont-ils, pardon, encore accroupis aujourd'hui dans les geôles camerounaises, victimes de règlements de comptes orchestrés depuis le sommet de l'État, face aux actions menées par des avocats et par des ONG de défense des droits humains? Quelles sont les réponses de l'État camerounais régulièrement condamné par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Regard sur la situation de ces prisonniers, pas comme les autres, avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Hugo Vallière.
Le Grand Débat, Africa Radio.
Retrouvez également le Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Nous avons une salutation, comme de coutume, à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Merci de la fidélité. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Berlin, à Montréal, à Yaoundé, à Douala, à Washington DC, à Ngaoudéré, à Édimbourg ou encore à Moscou. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va les citer aujourd'hui, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas cité les nouveaux amis. On va en citer quelques-uns. Mousmous qui nous rejoint depuis Paris, Tantan Femme depuis Hanoï, Prézi Assis depuis Paris, Moussa Dermé depuis Hambourg, Gambia Poul Poba depuis la Gambie, et Joanne Zoué, depuis Libreville. On peut également citer Barou Doumbia, Kabes Choul Buxon Kabemba, Youssou Singh Ate, Kofi Djossou, Lassana Diabé Kaloga, ou encore Loseni Kibafouri Diomandé, ou encore Kwadio Paul Newman Kwame. Voilà. Ils ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Merci à eux. Et bien sûr, toujours notre pensée rituelle pour nos amis de Bujumbura au Burundi.
Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire, le Grand Débat sur Africa Radio.
Combien sont-ils encore dans les geôles camerounaises, ceux-là que l'on désigne comme les prisonniers personnels de Paul Biya, du président Paul Biya, des prisonniers pas comme les autres, souvent lourdement condamnés, victimes de règlements de comptes obscurs au sein du système aux commandes de l'État du Cameroun. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui dans cette édition du Grand Débat, avec nous ici en studio, Joël Didier Ngo. Bonsoir.
Bonsoir Francis.
Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques. Avec nous au téléphone, Maître Hakim Chergui. Bonsoir Maître.
Bonsoir, bonsoir à vous.
Alors vous êtes l'avocat de Achille Zogo Andela, on en parlera tout à l'heure. Il est incarcéré depuis 2011 et condamné à 35 années de réclusion. C'est bien 35 années hein, Maître?
C'était 42 avec les peines complémentaires.
Avec les peines complémentaires, 42 années de réclusion donc. Avec nous également au téléphone depuis Toulouse, Sébastien Nadeau, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Nadeau, vous êtes député à l'Assemblée nationale française, hein, auteur de Amadou Vamoulke, Lettre à la France depuis Kondegui, aux éditions Théam. C'est un recueil de vos échanges avec Amadou Vamoulke, ancien patron de la CRTV, c'est la télévision nationale du Cameroun, emprisonné pour détournement présumé et toujours dans l'attente de son procès. Il faut préciser que vous vous occupez, hein, à l'Assemblée nationale en France, des questions de politique étrangère, notamment la situation au Yémen, ou encore les ventes d'armement français à l'Arabie Saoudite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Didier Ngo, on commence avec vous. La liste est longue des personnalités lourdement condamnées au cours des dernières années au Cameroun. On peut citer notamment Jean-Marie Atangana Mebara, Marafa Amidou Yaya, Polycarpe Abba Abba, Yves-Michel Fotso ou encore Ephraim Inouni. La liste est longue. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un point sur la situation des prisonniers politiques au Cameroun, ceux qu'on a désignés parfois comme les prisonniers personnels de Paul Biya?
Effectivement, on les appelle les prisonniers personnels de Paul Biya, mais je vais essayer d'être exhaustif. Il y a parmi ces prisonniers, effectivement, ce qu'on appelle libérer des prisonniers personnels de Paul Biya, c'est-à-dire issus d'un système du fait que depuis Titus Sidjoa, le professeur Titus Sidjoa en 1997, qui a inauguré en fait cette catégorie de prisonniers politiques, c'est-à-dire ceux qu'on peut ranger comme ceux à qui on prête des ambitions présidentielles.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Il y a cette première catégorie, c'est-à-dire les prisonniers dits personnels de Paul Biya. Il y a une dizaine à peu près. Mmh. Et là, vous avez maintenant, après ça, des prisonniers du système. Hey. C'est-à-dire le système génère des prisonniers, hey. Des gens qu'il affuble de crimes de droit commun, mmh, mais qui sont en fait des prisonniers politiques aussi. Et que, en fait, c'est du droit commun, du politique maquillé en droit commun.
Droit commun, c'est bien
et
ça.
La dernière catégorie qu'on a maintenant, ce sont ce qu'on appellerait des prisonniers issus des soulèvements populaires et civils. Hein. Mmh. On a d'abord une première vague avec le Boko Haram, où derrière Boko Haram, la lutte contre le terrorisme, on a arrêté un certain nombre de dignitaires du Nord à qui on affublait de tentatives ou d'immixtions ou de complotisme avec des enjeux terroristes. Vous avez eu là-dedans maître, un célèbre notaire du Nord et d'autres hommes politiques. Et maintenant, j'englobe aussi là-dedans maintenant les anglophones, c'est-à-dire tous. Et là, vous avez plus d'un millier d'anglophones.
Ah oui.
Plus d'un millier d'anglophones. Rien qu'à Yaoundé, à la prison centrale de Yaoundé, vous avez un millier.
Ah oui.
Oui. Je ne compte pas ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest.
Dans des personnes arrêtées.
Des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone qui a dégénéré en guerre civile anglophone. J'espère vraiment avoir été très clair là-dessus pour qu'on distingue les prisonniers politiques, qui sont des prisonniers personnels de Paul Biya, des prisonniers du système. Et les prisonniers issus des soulèvements populaires et civils.
Alors, s'agissant de ces prisonniers personnels, comme l'on dit, entre guillemets, il n'y a pas que les figures de l'opposition, il faut le préciser donc aux auditeurs, il n'y a pas que des gens, des leaders de l'opposition qui sont visés, mais ce sont souvent, ça a été en tout cas souvent, des personnalités ayant servi le régime. Est-ce qu'on peut dire que ces cas judiciaires qu'on évoque là ont servi à la longévité du régime Paul Biya?
Effectivement, le système s'est perduré en broyant ses propres fils, en fait. C'était ça. Jusqu'à une date récente, pour faire clair, jusqu'à la dernière incarcération du professeur Kamto, Maurice Kamto, qui est vraiment issu de l'opposition, Paul Biya ne s'en prenait pas de manière judiciaire et carcérale aux opposants politiques. La première fois qu'on a un opposant qui joue véritablement la carte de l'opposition réelle au régime, et il est incarcéré. Mais sinon, c'est à l'intérieur du système qu'il broyait tous ceux qui avaient des prétentions ou qu'on prêtait des prétentions de succession au prince. Mm-hmm. Mara Famidou Yaya, Jean-Marie Atangane Mbara et les autres sont dans ce contexte-là. Depuis Titus Sidjoa, c'est comme ça.
Très, très bien. Je vais me tourner vers Maître Hakim Chergui. On va évoquer un cas très précis. Hein. Maître Hakim Chergui, vous êtes à la tête d'un collectif d'avocats qui défend Achille Zogo Andela, ancien PDG de la Société camerounaise de l'usine maritime. La SCLM, il est emprisonné depuis 2011 et le 30 novembre 2018, il a été condamné à 35 ans de réclusion criminelle, 42 ans donc avec les peines secondaires comme vous l'avez dit tout à l'heure, et 58 milliards de francs CFA d'amende. Il était accusé de détournement de biens publics. Alors pourquoi précisément vous contestez l'accusation et par conséquent ce verdict ?
Alors on le conteste pour plusieurs raisons, principalement sur des raisons de fond. On reproche à mon client, donc Achille Zogo Andela, d'avoir détourné 20 bateaux crevetiers. Alors que les bateaux ont été repris par les commis de l'État et qu'ils ont été répartis entre différents ambassadeurs qui, en fait, les ont exploités depuis l'année 2001 jusqu'à ce jour, sans évidemment redistribuer le moindre denier au trésor public camerounais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Achille Zogo Andela, dans ce dossier, c'est un peu le cache-misère des pratiques de corruption au Cameroun. Et il a servi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti une plainte qui n'existe pas d'ailleurs en 2009, soit plus de 8 ou 9 ans après les faits. Et c'est une plainte qui est introuvable et qui, en plus, concerne la société qu'il dirigeait, alors que là, il est attaqué à titre individuel, ce qui est quand même très bizarre, parce que lui, il n'a rien fait. À titre individuel, c'est une société qui a loué des bateaux. Et faisant fi de cette confusion, plutôt de cette séparation entre droit commercial et droit pénal, on va l'attaquer lui directement et on va le mettre en prison. Pourquoi on le met en prison ? et on va le laisser croupir en prison. C'est-à-dire que de 2011 jusqu'à 2017, il va plus ou moins rien se passer pour lui.
Oui.
Et c'est pour ça que l'ONU va intervenir, donc il va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU, qui va constater,
oui,
parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, le caractère arbitraire de la détention d'Achille Zogo Mandela.
Donc l'ONU qui a condamné très clairement le Cameroun pour détention arbitraire, hein, dites-vous.
Et c'est d'ailleurs la dernière décision en date de l'ONU, et il faut y voir un signe fort, qui sera publié par l'ONU.
Oui.
Parce que toutes les décisions du comité des droits de l'homme ne sont pas publiques. Donc là,
mais cette condamnation n'a pas ému les autorités camerounaises, puisque le procès est intervenu en 2018.
Et précisément, la conclusion du comité des droits de l'homme, donc avec une décision qui est exécutoire, qui a force de loi, qui doit être appliquée, était de dire vous devez le libérer et l'indemniser avant tout jugement.
C'est ça.
Pour autant, les autorités judiciaires, et je vais cibler particulièrement les institutions du tribunal criminel spécial, qui est la juridiction d'exception qui a été instaurée pour justement, dans le cadre de l'affaire Épervier, juger, oui, les affaires de détournement de deniers publics supérieurs à 50 millions de francs CFA.
Oui.
Et c'est un peu l'institution qui pose problème, puisque du coup, c'est ce que nous avons évoqué publiquement au Cameroun, établir une juridiction d'exception, c'est un droit, mais en revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fait du droit par exception, et là, ça devient un crime.
C'est ça.
Donc du coup, le tribunal criminel spécial, en fait, il porte très bien son nom. Il est criminel dans sa pratique judiciaire, parce que c'est ni plus ni moins qu'une machine à condamner, et ce n'est ni plus ni moins,
oui,
qu'une usine à tolérer les injustices et les violations du droit les plus évidentes. Alors, je vais être très précis. Quand on parle d'Achille Zogo Mandela, alors, une fois que la décision de l'ONU est arrivée, vous avez une juridiction qui va se dépêcher de le juger.
Oui.
Mais en toute hâte. Et vous avez un parquet, alors je le dis en tant que témoin privilégié, puisque j'ai été son avocat et que je l'ai défendu devant cette juridiction, allant jusqu'à retirer ma robe au moment des plaidoiries, parce que je considérais que le tribunal n'était plus un tribunal quand il violait la loi de manière aussi patente, et que j'ai fait serment de porter ma robe uniquement dans les enceintes judiciaires, et que j'étais donc contraint, moralement, de retirer ma robe et de ne pas plaider. Ce qui ne m'est jamais arrivé en carrière. Donc, vous avez des gens qui ont accepté de le juger en toute hâte, des gens qui, tenez-vous bien, vont faire en sorte... Alors, il sera malade le 13 mars dernier, il sera malade en prison, le médecin de la prison fait un certificat, et vous avez une juridiction qui le sait, qui est informé, et on a les preuves de tout ça, et qui, en dépit de tout ça, vont entendre tous les témoins de l'accusation en son absence. Et ils vont continuer les irrégularités et, j'ai envie de dire, qui confinent à la malhonnêteté intellectuelle, ils vont continuer cela à toutes les audiences.
Maître Hakim Chergui, on va revenir tout à l'heure sur les irrégularités que vous avez notées, évidemment, pendant ce procès, mais on va continuer à faire un tour de table, hein, pour cette première étape de l'émission. Je me tourne vers Sébastien Nadeau, monsieur le député. Vous avez publié cet ouvrage intitulé donc Amadou Vamulke, Lettre à la France depuis Condé Guy. Donc je le disais, hein, c'est un recueil, hein, des échanges que vous avez eus avec Amadou Vamulke, qui a dirigé pendant plusieurs années la CRTV, la télévision nationale du Cameroun. Il est accusé de détournement et il attend toujours son procès. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé, vous, à ce cas ?
D'abord, je suis député français, représentant de la nation française. Et vous savez, on a une constitution en France qui a dans son préambule quelque chose d'extrêmement simple. C'est les premiers mots de la constitution française en vigueur depuis 1958. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Eh bien, je crois qu'à travers ça, déjà un premier regard, une connaissance de la situation d'Amadou suffit à s'intéresser à sa détention qui est complètement étonnante.
Oui. Alors, la ligne est rompue, je crois. La ligne est donc rompue. Je reviens à vous, donc, maître Hakim Chergui. Vous avez indiqué, hein, maître Chergui, concernant donc l'affaire Achille Zogo Mandela, que, je vous cite, cette affaire met en cause le fils adoptif du président Paul Biya et démontre à quel point la lutte contre la corruption en Afrique, financée et adoubée par la communauté internationale, sert de paravent à la poursuite des pratiques de corruption. Fin de citation. D'abord, quelle est la nature, hein, de l'implication du fils du président Biya dans cette affaire ?
Alors, monsieur Ebou Mekoul, puisqu'il faut le nommer, était le directeur général de la caisse d'amortissement, la CAA, qui est la partie civile dans ce procès et qui serait l'autorité qui aurait porté plainte en 2009. Oui. Et de surcroît, c'est également le neveu et le fils adoptif du président Biya. Mmh. Et c'est quelqu'un dont j'ai les preuves qu'il a participé à la redistribution des bateaux en question, ah oui, avec des versements occultes entre les différents commis d'État, différents ambassadeurs notamment.
D'accord.
Et je termine sur un point.
Allez-y, oui.
Nous avons aussi les preuves qu'il a été à la tête d'un comité interministériel de suivi de ce dossier de l'affaire dite des bateaux espagnols, comité interministériel qui s'est cantonné à produire un rapport d'une dizaine de pages et qui l'a facturé 100 000 euros à peu près.
Ah oui, d'accord.
Donc tout ce que je dis est évidemment établi, prouvé et acté dans mon dossier. Donc nous avons affaire à des gens qui ne se cachent même plus en termes de pratiques de corruption.
Est-ce que cet aspect du dossier a été évoqué pendant le procès en 2018 ?
Alors, il était impossible. On a déposé une plainte justement contre M. Evon Bekou et contre les différents commis qui ont volé les bateaux. Cette plainte a été refusée, alors que le code de procédure pénale camerounais nous dit qu'on peut déposer plainte à l'audience à n'importe quel moment.
Oui.
Vous avez une juridiction qui a refusé de prendre la plainte, et mieux que ça, vous avez même un président de la collégialité qui a refusé de toucher le dossier de plainte que j'ai déposé sur sa table.
D'accord. Très bien. Écoutez, on va marquer une pause et on revient juste après pour reprendre le cours de ce débat consacré aux prisonniers oubliés du régime Paul Biya, prisonnier politique au Cameroun. Et nous sommes accompagnés de Maître Hakim Chergui, Joël Didier Ngo, et nous retrouverons juste après la pause Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale de France, l'Assemblée nationale française, et qui a publié un recueil d'échanges avec Amadou Vamulke, ancien patron de la CIRTV, la télévision nationale du Cameroun. L'ouvrage est intitulé Amadou Vamulke, lettre à la France depuis Condé Guy aux éditions Théam. A tout de suite.
Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupo.
Les prisonniers politiques, les prisonniers oubliés du régime Biya au Cameroun, combien sont-ils donc dans les geôles camerounaises? Ceux qu'on désigne souvent comme les prisonniers personnels de Paul Biya, des prisonniers pas comme les autres. Nous en parlons avec Maître Hakim Chergui, Joël Didier Ngo et Sébastien Nadeau qui est avec nous au téléphone. Sébastien Nadeau, on vous a retrouvé, monsieur le député. Donc je vous pose la question de savoir pourquoi vous êtes intéressé au cas. Non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Déjà, bon, il n'est pas là. Je me tourne vers vous, donc, mon cher Joël Didier Ngo. Vous avez écouté, donc, alors, comme Sébastien Nadeau n'est pas là, on va se pencher sur le cas Achille Zogo Andela. Vous avez écouté son avocat, Maître Hakim Chergui. Quelle réflexion vous inspire ce cas particulier?
Le cas particulier de M. Zogo Andela, que nous suivions depuis le début, il faut être... est assez particulier parce que M. Zogo Andela est un opérateur économique. Hein. C'est pas un membre du sérail politique. Donc, vous avez là ce qui se passe véritablement dans un pays où les choses se sont, pour dire trivialement, sont devenues assez brutales et sauvages, où des personnes qui sont aux commandes de l'État s'arrogent le droit de s'accaparer des biens, parce que là on s'accapare véritablement des biens professionnels d'un opérateur économique.
C'est ça.
Et ce qui est aussi assez regrettable et même assez terrible chez monsieur Zogo Andela, c'est qu'on voit que l'État du Cameroun s'arroge le droit, y compris de marcher sur les conventions internationales. Et là, il vous a fait état de l'avis des nations, du groupe de travail, pas du groupe de travail, du comité des droits de l'homme de l'ONU,
oui,
qui a été rendu. Dans d'autres États, j'ai vu le cas du Sénégal, pour prendre un exemple, où certains prisonniers politiques, ou ceux qui étaient considérés comme des prisonniers politiques, ont fait l'objet de mêmes avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. L'État du Sénégal s'est arrangé à les libérer. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, cela ne crée aucune gêne du gouvernement. Vous avez, dans le même cas que M. Andela, vous avez actuellement 3 personnes parmi ceux que nous couvrons qui ont un avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez Maraf Amidou Yaya, et vous avez M. Zogo Andela, vous avez même l'ex-ministre de la Santé urbain Olangana Ono, qui sont à qui l'ONU a expressément demandé qu'il soit libéré et parfois avec indemnisation de l'État. Le Cameroun ne fléchit pas d'un iota.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est ça qui nous attriste le plus parce que nous nous disons que l'État s'est véritablement est devenu répressif au point où il est même muet et sourd sur ce qui fait partie du corpus international, quoi, du droit international. Il ne regarde plus, il ne voit plus, et c'est dramatique. Au-delà de ces cas-là, il y a un autre cas qui est celui de M. Mbara, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Là, c'est l'ONU, c'est la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine qui a demandé à ce qu'il soit libéré dans les mêmes ordres d'idées. Et l'État ne bouge toujours pas.
L'État ne bouge pas, et l'État a même bénéficié, je dirais, de l'indulgence de certaines grandes nations de la communauté internationale. Sébastien Nadeau, justement, en octobre dernier, vous avez interpellé le président Emmanuel Macron sur la crise en cours dans les régions anglophones du Cameroun. Vous aviez évoqué aussi à cette occasion la situation des prisonniers politiques, justement, dans ce pays. Comment se comporte aujourd'hui la diplomatie française vis-à-vis de ces dossiers judiciaires que nous évoquons, des dossiers qui renseignent quand même à suffisance sur la nature du régime camerounais?
Bah écoutez, je pense que le gouvernement français est certes très embarrassé, mais ne prend pas en compte des éléments fondamentaux qu'on doit toujours avoir comme guide quand on fait de la politique en France. Ce sont ceux de la Constitution française. Je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si si on a pu l'entendre, mais ce préambule, normalement, c'est le premier guide. Et on ajoute à cela la question de la francophonie. La francophonie, c'est une langue, la langue française avec toutes ses déclinaisons, mais c'est aussi normalement des valeurs universelles qui y sont adossées. Et on peut bien constater que dans la manière dont la France entretient actuellement une relation avec le Cameroun, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que j'espère bien que des choses vont se débloquer très prochainement, pour l'instant, on ne prend pas en compte cette situation d'injustice systémique et organisée par l'État camerounais, mais sur lequel la France, qui a quand même une relation très particulière, et j'en parle dans mon livre, c'est des échanges avec Amadou Vamulke, mais c'est aussi un regard un petit peu à travers notre histoire partagée, notre histoire du temps présent, et c'est se questionner si la France ne change pas dans sa manière d'aborder le Cameroun, dans le niveau de ses relations. Moi, je souhaite qu'il y ait plein de relations avec le Cameroun de la part de la France, mais ne pas intégrer cette question des droits de l'homme dans sa relation, c'est tout simplement nier la valeur humaine, et c'est nier un futur partagé pour nos deux pays. Et je trouve ça complètement dramatique.
Le dernier voyage, en tout cas, du ministre des Affaires étrangères, ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au Cameroun, a montré plutôt, voulait plutôt démontrer l'excellence des relations entre la France et le Cameroun. À propos du cas Amadou Vamulke, voici ce qu'a déclaré Arnaud Frogère, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Je le cite, en l'absence de soins et d'examens appropriés, ce journaliste en est réduit à s'administrer des vitamines qu'il achète à ses propres frais après avoir lu sur Internet que cela pourrait aider à soulager ses douleurs. Si cette privation de soins se poursuit, le journaliste pourrait perdre l'usage de ses jambes, sans parler du fond de l'affaire qui traîne depuis des années faute de preuves. Le tribunal a au moins pour obligation de ne pas mettre la vie de cet éminent journaliste en danger. L'évacuation sanitaire d'Amadou Vamulke est une obligation morale. Quelle est la situation aujourd'hui de M. Vamulke, Sébastien
Nadeau ? Amadou Vamulke va très mal. Il va très mal pour plusieurs raisons. D'abord, physiquement, son corps ne répond plus de temps à autre et il a besoin de soins considérables. Donc forcément, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais par ailleurs, il est victime d'une espèce de cabale judiciaire, on prend pour prétexte on ne sait trop quelle affaire, parce que au fin fond de l'histoire, il aurait finalement détourné de l'argent de la CRTV pour la CRTV, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le cas d'un enrichissement personnel dans le cas d'Amadou Vamulke. On pourrait éventuellement envisager une erreur de comptabilité. Voilà. Et pour l'instant, les charges dans le dossier, ce sont des erreurs comptables avant qu'il ne soit directeur de la CRTV. Donc on est dans un procès qui n'existe pas, on est dans un enfermement complètement ubuesque, et donc à la fois la santé physique va mal, à la fois le temps qu'il passe en prison, vous savez, il va avoir 70 ans dans les prochains jours, c'est un moment de sa vie où il est emprisonné, où il ne peut pas bénéficier d'une certaine normalité. Et donc, je dirais, dans tous les domaines, il est attaqué. Et en plus de ça, il voit très bien que son pays part à la dérive avec ce système de plus en plus fort, de plus en plus violent et de plus en plus répandu. Pour régler les problèmes de relations entre les gens, ceux qui ne sont pas d'accord, on les met en prison. Ceux qui sont un petit peu plus intelligents que les autres, on les met en prison. C'est quelque chose qui est absolument intenable. Donc Amadou Vamulke va très mal. Et du point de vue du droit international, il devrait, qui plus est de par sa situation médicale, être sorti de prison, mais d'urgence. C'est quelque chose qui est impensable, qui est impensable dans un pays qui a un tant soit peu de morale, de respect de la valeur humaine. Donc on en est là. Et c'est une situation, effectivement, Arnaud Froger de RSF le dépeint très bien. C'est une situation de brimade. Vous savez, il était plus ou moins suivi par un médecin à Yaoundé. Mais même ça, il n'en bénéficie plus. Il n'a même plus le moindre suivi médical alors qu'il est gravement malade. C'est vraiment quelque chose qui est catastrophique.
Merci beaucoup, Sébastien Nadeau, de rester avec nous. Maître Hakim Cherghi, on revient donc au cas de Achille Zogo Andela. Vous avez donc saisi, vous avez porté le cas de cet homme devant le Comité des droits de l'homme et aussi devant le groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission africaine des droits de l'homme. Vous l'avez déjà fait ou pas c'est un projet?
Non, c'est en cours, c'est imminent. Je me permets juste de rebondir sur les propos de M. Nadeau, parce que j'étais à Yaoundé la semaine dernière, et moi j'ai eu le bonheur et l'avantage de rencontrer M. Vamulke et M. Zogo Andela. Et je trouve extrêmement pertinent le fait que vous ayez eu l'idée d'associer les deux cas dans ce débat. Effectivement, je confirme ce que M. Nadeau dit, M. Vamulke, mais aussi M. Zogo Andela sont dans des situations de santé qui sont dramatiques. Un mot sur les conditions de détention à la prison centrale de Konangi, qui est un mouroir à ciel ouvert. C'est, d'après les statistiques du ministère de la Justice camerounais, c'est 5000 prisonniers sur 3000 mètres carrés. 700 repas distribués chaque jour. Femmes, enfants, adultes, tout mélangé. Vous avez des prisonniers, j'en ai vu, qui, pour des raisons disciplinaires, vont se retrouver enchaînés. Vous avez des pratiques de corruption où on leur fera payer à 30 francs, à 30 francs le maillon. Pour qu'ils puissent avoir une marge de manœuvre et une marge pour marcher un peu plus grande, on leur fera même payer la longueur de la chaîne. C'est-à-dire que, de fait, et vous avez en plus une situation où l'État camerounais se dédouane totalement de son obligation de fournir des soins aux prisonniers, en ce sens que, moi, en ce qui concerne M. Zogo Andela, qui est atteint de 5 pathologies chroniques et potentiellement létales, il ne lui accorde même pas un cachet de paracétamol.
D'accord.
Et ils vont laisser les gens comme ça dans des situations de santé totalement ubuesques, catastrophiques, et ils vont les laisser mourir. Et il y a régulièrement, j'ai vu des cadavres à Konangi. Donc ça, c'est la situation. Alors, de fait, ça me permet de rebondir sur les procédures, puisque effectivement, nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme sur le droit à la santé. Et nous avons fait une démarche qui est assez originale du point de vue du droit international, c'est que nous avons saisi 3 instruments internationaux. Je me permets également de corriger les propos de M. Engo, si je ne m'écorche pas votre nom, monsieur. Le Comité des droits de l'homme ne rend pas des avis. Le Comité des droits de l'homme rend des constatations.
C'est ça.
La distinction n'est pas que sémantique, elle a un poids juridique énorme. C'est-à-dire qu'elle considère que le Cameroun a effectivement et objectivement violé les dispositions, donc les droits de l'homme, et plus précisément les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc le Cameroun a violé ses engagements internationaux. Et il est dans l'obligation de redresser le tort, oui, et de faire en sorte que d'indemniser et de faire en sorte que ça cesse. Et effectivement, on a à ce stade-là des pratiques d'un État voyou qui refuse, mordicus, d'appliquer des décisions de justice. Alors que l'État et la diplomatie le fassent, on le comprendra pour des raisons politiques. Oui. Mais quand vous avez des juridictions, des juges, des magistrats qui enrobent et au nom du peuple camerounais décident de s'asseoir, et passez-moi l'expression, sur une décision de justice, mais ils le font en plus avec tellement de médiocrité que moi j'en suis resté totalement bouche bée. Dans le cas de Zogondela, nous avons évidemment sollicité la libération immédiate et donc l'application de la décision de l'ONU. Et vous avez un avocat général qui a demandé au tribunal, publiquement, il s'est levé et en robe, a demandé au tribunal de ne pas appliquer la décision de l'ONU, non pas parce qu'elle ne serait pas une décision ou parce qu'elle ne serait pas juridique ou pas exécutoire, mais uniquement parce que c'était une photocopie.
Ah oui, d'accord.
Et il s'est rassis. C'est ce niveau de... Je veux dire, Kafka n'aurait pas écrit ça dans ses livres.
D'accord. Restez avec nous, Maître Hakim Chergui. Un mot, Joël Didier-Ingo, rapidement, sur les conditions de détention de ces prisonniers dont nous parlons, parce que, en plus du caractère douteux des dossiers judiciaires que nous évoquons, il y a le traitement réservé à ces personnes dans les prisons camerounaises.
Oui, c'est là où je reprends pour dire à Maître que, loin de moi, l'envie d'amoindrir l'aspect contraignant des décisions de l'ONU. Simplement, nous sommes face à un gouvernement et un système judiciaire qui a tendance à les amoindrir justement pour ne surtout pas montrer le côté contraignant de ces décisions. Par ailleurs, sur le côté le traitement, je voudrais quand même attirer l'attention au-delà du cas Vamulke et M. Andela. Il faut savoir que tous ces prisonniers là aujourd'hui sont des gens qui souffrent, qui sont pour certains, hein, je mesure mes mots, à l'artifice de la mort.
D'accord.
C'est-à-dire que il les sort au compte-à-gouttes actuellement. Vous avez d'abord Yves-Michel Fauchot qui a été sorti parce que il est en situation véritablement, il était presque en phase terminale. Il a été évacué au Maroc. Dernièrement, c'est l'ancien premier ministre Inoni Ephrem. Mais il faut savoir que les conditions, parce que les gens ne mesurent pas assez. Lorsque on voit Paul Biya généralement, qui est un homme affable, policé, et même débonnaire en vieillissant, on ne mesure pas le degré de cruauté de son système.
C'est-à-dire
qu'il les laisse mourir à petit feu.
C'est ça, jusqu'à ce que mort s'en
jusqu'à
suive.
Jusqu'à ce que la mort s'en suive. D'accord. Nous sommes depuis des années en train de réclamer des évacuations sanitaires pour raisons humanitaires depuis des années pour des cas comme Maraf Amidou Yaya, parce que Maraf Amidou Yaya n'est même pas dans une prison dite de droit commun.
Dont la femme est décédée entre-temps.
La femme est décédée à Paris entre-temps. Il n'a pas pu l'enterrer, il n'a même pas pu l'assister. Nous nous sommes occupés, pour vous dire simplement, on s'est occupé de cette situation qui était un drame, et ce monsieur est enfermé au secrétariat d'État à la défense de Yaoundé, dans des cellules exiguës. Oui. C'est là où était enfermé Thierry Michel Attangana pendant 17 ans, pour juste vous montrer le degré de cruauté d'un système. Et tous sont actuellement dans des souffrances que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'ils ne consultent aucun médecin. Quand bien même ils voudraient, on ne leur permet pas de consulter des médecins, et tous sont en souffrance actuellement, et nous plaidons vivement que, au-delà de l'exigence qui est souvent la nôtre d'avoir des libérations immédiates, mais d'avoir des libérations pour raisons humanitaires.
Merci. On va marquer une dernière pause dans l'émission. On revient ensuite avec vous, messieurs, pour quelques conclusions, forcément provisoires, sur ce dossier. À tout de suite.
Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau.
Les prisonniers oubliés du président Paul Biya, du régime Paul Biya au Cameroun. Nos invités, Maître Hakim Chergui, Joël Didier-Ingo et Sébastien Nado. On va faire un tour de table rapidement. On va commencer avec vous, monsieur le député Sébastien Nado. Alors, hors antenne, Joël Didier-Ingo me disait cette phrase que j'ai retenue, me disait au Cameroun, on a banalisé l'abomination. Alors, face à cette terrible réalité, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus que dénoncer?
Ben, écoutez, moi je suis député français, donc ce que je demande à mon gouvernement, c'est d'agir pour que cette situation puisse évoluer, parce que je crois qu'on est là, et vous le disiez très clairement, et on a pu l'entendre, c'est un problème qui est largement systémique, c'est-à-dire que le système de justice au Cameroun, à l'heure actuelle, ne rend pas justice, Il y a une quantité de gens qui attendent un procès, enfin, je crois qu'à la prison centrale de Koningi, sur les 5000 prisonniers, il y en a à peu près 4000 qui sont en attente d'un procès. Donc il y a, de la part de la France, à exercer des pressions pour que les questions des droits de l'homme et la justice en est une, avancent dans ce pays. Puisqu'on a des relations économiques qui sont importantes, puisqu'on a des relations historiques qui sont importantes, eh bien, on doit avoir des relations politiques importantes et à la hauteur de ce qu'est la France sur la scène internationale.
Avant de vous libérer, Sébastien Nadeau, une question presque personnelle, hein, mais réponse rapide. Vous étiez député de La République En Marche, hein, du parti présidentiel en France. Pourquoi vous en avez été exclu ?
Alors, moi, j'en étais exclu parce que j'ai voté contre le budget. C'était essentiellement sur des questions intérieures en France. J'estimais que le budget n'était pas à la hauteur pour s'occuper des gens en difficulté dans notre pays.
Donc, ça n'a rien à voir avec vos prises de position en matière de politique étrangère ?
Ça a à voir parce que j'avais pas non plus une satisfaction totale sur les questions de politique étrangère.
Notamment sur la question du Yémen, par exemple ?
Sur la question du Yémen, je pense que la France a un rôle sur la scène diplomatique internationale à jouer comme vecteur porteur dans un moment qui est extrêmement compliqué. Le concert international est très troublé. La France doit avoir un rôle beaucoup plus clair et notamment être très déterminée sur la question des droits de l'homme. Et comme avec le Cameroun, il y a une forte relation économique, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Moi, je trouve ça intéressant à partir du moment où la France a aussi son autre jambe. Il n'y a pas que la jambe économique qui compte, mais il y a bien la jambe de son histoire universelle. Enfin, la Révolution française, elle ne doit pas avoir servi à rien. Elle doit servir à toute personne sur cette planète et à tout moment. Et à travers la détention d'Amadou Vamulke, effectivement, on va très très loin et on détricote comme ça pour arriver à un régime politique qui est complètement exsangue, mais qui doit se transformer positivement. Et malheureusement, pour l'instant, à travers la situation dans la zone anglophone, à travers le nord du Cameroun, on voit bien qu'on est sur une orientation qui ne peut être que pessimiste. Donc il y a une dimension politique à travers cette situation de prisonniers qui sont eux-mêmes prisonniers politiques, qui est extrêmement forte, et je pense que le rôle de la France est déterminant dans les mois et les années qui vont venir pour que le Cameroun puisse redresser la tête et puis disposer convenablement de toutes ces ressources dont il dispose.
Merci beaucoup Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale française. Vous avez publié cet ouvrage, Amadou Vamulke, Lettre à la France depuis Koningi, aux éditions Théâme. Merci infiniment. Maître Hakim Chagui, une conclusion très rapide, peut-être sur cette question. Quelles seront les prochaines étapes de ce que vous qualifiez vous-même d'offensive judiciaire en faveur d'Achille Zogo-Andela, rapidement?
Oui, alors très vite, nous allons effectivement porter ce dossier sur les tables de différentes institutions internationales. Et nous allons continuer à faire condamner le Cameroun par tous les instruments internationaux, jusqu'à ce que les autorités camerounaises comprennent que on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de la lutte contre la corruption et que il est nécessaire de respecter les procédures parce qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'évolution positive pour le peuple camerounais sans respect littéral des droits de l'homme et des engagements du Cameroun. Vous avez posé une question intéressante parce que nous, nous sommes des avocats et avocats français, principalement avocats au barreau de Paris. Pourquoi depuis Paris? Pour faire écho. Nous savons que la France, par exemple, c'est tout bête, mais la France a accordé une aide de 45 millions d'euros le 24 octobre dernier à la région de l'extrême nord du Cameroun, qui est touchée par les exactions de Boko Haram pour le développement, dans un pays dont on sait très bien que les pratiques de corruption systémique ont empêché la tenue de la CAN. On se demande quelles sont les garanties que notre gouvernement, puisque ce sont des fonds tirés du Trésor public français, a mis en place pour s'assurer que ces 45 millions iront effectivement au peuple camerounais et non pas à toutes les strates qui vont forcément piocher dedans. Ce sont des questionnements que nous posons et nous exigeons que les droits de l'homme soient effectivement au centre de relations diplomatiques, comme l'a dit très justement M. Nadeau, pour M. Zogo-Andela, pour M. Vamulke et pour tous les autres prisonniers qui n'ont rien à faire en prison.
Maître Hakim Chergui, merci beaucoup. Avocat de Achille Zogo Andela, incarcéré donc au Cameroun, en détention depuis 2011, et condamné à 35 ans de prison et 58 milliards d'amende, 58 milliards de francs CFA. Merci beaucoup. Joël Didier Ngo, c'est à vous de conclure. Et que peut-on attendre finalement de l'État camerounais? Parce qu'on parlait de, on dit voilà, c'est un problème de système à l'issue du fameux dialogue qui s'est tenu il y a quelques semaines. Il était question de libérer justement certains prisonniers politiques. Il semble que cette libération était fort sélective.
Non seulement elle est sélective, mais il faut toujours rappeler à l'État du Cameroun que le Cameroun fait partie du Conseil des Nations. Quand on fait partie et qu'on se revendique comme partie du Conseil des Nations, le préalable, c'est de respecter un certain nombre de décisions de la communauté internationale dont Maître en faisait allusion. On ne peut pas en permanence violer le pacte civil et politique en pensant qu'on est un bon élève de la communauté internationale comme le clame ce régime. Mais j'irai même plus loin pour conclure ce débat, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement des intervenants extérieurs à ces problèmes, parce qu'il faut que les gens comprennent aussi que les nobles causes que sont la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme, ont été détournées par un système, par un système qui est un système dictatorial, n'ayons pas les mots de le dire. Et chaque fois, c'est pas tant les peines lourdes qu'il inflige à ces innocents, disons-le aussi, ce sont des innocents qui sont problématiques. Ce qui est problématique dans le cas d'un prisonnier politique, d'un détenu d'opinion, c'est le silence. Mmh. C'est le silence qui est dangereux et qui le tue à petit feu. Parce que si on ne parle plus de M. Zogo Andela, si on ne parle plus d'Amadou Vamulke et de tous les autres, sachez que c'est la fin programmée à petit feu dans les geôles du régime.
C'est pour ça qu'il faut en parler et en parler encore. Merci Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques. Merci encore à Maître Hakim Chergui. Merci encore au député Sébastien Nadeau. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann notamment. Merci à Hugo Vallière qui réalise ses émissions quotidiennement. Vous pouvez la réécouter cette émission d'ailleurs en podcast sur notre site africaradio.com. Elle est rediffusée ce soir sur Radio Africaine à 23h heure de Paris. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous. De préférence à l'écoute d'Africa Radio. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.